Alors nous reprenons notre matinée et qui a rassemblé deux interventions un peu différentes. La première d'Andrea Taddei, qui est chercheur au département de philologie classique de l'Université de Pise, qui est un spécialiste du droit grec, qui a été avec Riccardo Di Donato, éditeur de textes de Louis Gernet sur le droit. Et par là, il nous reconduit en amont du centre Gernet. Du côté de ce corpus de juridique qui, il faut bien le dire, n'a guère été relu, puisque nous sommes dans la relecture qui n'est même, je crois, guère lu. Et Vernant lui-même n'a pas directement travaillé sur le droit. Il a pris appui sur le travail de Gernet et en particulier ce travail qu'il reprend dans les premiers textes qu'il écrit sur la tragédie grecque. Je laisse alors la parole à Monsieur Taddei qui va nous entretenir dans les minutes qui suivent.
Merci aux organisateurs pour m'avoir invité, pour m'avoir fait l'honneur de cette invitation. Donc, il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance des enquêtes de Jean-Pierre Vernant à propos des institutions politiques, l'Assemblée, la parole partagée, le Maison. Mais, en même temps, on ne peut pas dire que le droit ait été une des clés principales utilisées par Vernant pour étudier la civilisation grecque des âges archaïques et classiques. Le domaine du droit n'est pas toutefois absent des écrits de l'auteur des origines de la pensée grecque. C'est justement dans les origines, par exemple, que le passage du mythe à la raison est assimilé au passage du pré-droit au droit. Nous y reviendrons. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'examiner d'une part la relation entre les formes et les lieux du procès judiciaire avec ses propres règles, ses propres symboles et de l'autre les formes et les lieux de la police démocratique. Le point de départ de mon enquête sur les rapports entre maison politique et maison judiciaire a été double. D'un côté, les célèbres observations sur la notion de maison et sur le rapport entre cette notion et l'élaboration de la police. De l'autre côté, les réflexions sur la solidarité entre affrontement et association, dont Vernant parle dans les problèmes de la guerre, en particulier à propos des prolongements ritualisés des affrontements dans les fêtes et les rituels. Pour trouver dans les travaux de Vernant des remarques à propos du droit, on peut remonter jusqu'aux premières années 50, quand Louis Gernet donnait ses cours et ses conférences à l'Institut du droit romain et quand il publiait sur l'année sociologique droit et prédroit en Grèce ancienne et sur le journal de psychologie, l'article sur le temps dans les formes archaïques du droit. Dans le journal de psychologie de 1954, Jean-Pierre Vernant publie un compte rendu de l'article de Henri Lévy-Brul sur les sources du droit, c'est l'année sociologique 1951, dans lequel il développe quelques observations sur la nécessité, toute meyersonienne dans sa formulation, d'étudier la force d'érosion de la coutume sur la loi dans le concret et par rapport aux formes des pensées. Deux ans après, 1956, il présente au lecteur du journal les aspects sociologiques du droit, du même Lévy-Brul, en concentrant son attention sur la nécessité d'intégrer l'ensemble des faits sociaux dont les faits du droit sont solidaires. L'année suivante, 1957, journal de psychologie, il discute droit et société dans la Grèce ancienne, dans un compte rendu très important où l'on trouve ce que nous, en 2008, après presque 30 ans d'études sur les relations intellectuelles dans l'anthropologie historique française, attendons de trouver. Il y a la famille, la propriété, les temps, la psychologie historique et quelques observations sur la transition du pré-droit au droit. Il faut, d'autre part, préciser qu'on peut trouver des réflexions sur le droit déjà en 1951, quand Vernon part toujours sur le journal de psychologie dans le livre sur la pensée de David Hume et il réfléchit sur la justification toute formelle, il disait, de la propriété privée. Pour finir sur ce point historiographique, on pourrait faire un dernier saut en arrière et citer l'important texte inédit de 1950 sur psychologie historique et expérience sociale, publié pour la première fois dans Passé et présent, où l'on trouve des réflexions très importantes en ce qui concerne le rapport entre psychologie historique et pré-droit. À propos de l'article sur la bonne foi juridique de Lévi-Bruhl, il est le même texte à partir duquel Jernet commence sa conférence sur le pré-droit le 24 janvier 1950. Il dit « Les droits comme la morale, Vernon écrivait en 1950, impliquent un ensemble de croyances et de notions psychologiques inséparables des actes. » Sans trop de difficultés, mais surtout sans rien dire de nouveau, on peut donc affirmer que tous les droits grecs qu'il y a dans Vernon viennent de Jernet, et en particulier de l'opposition entre droit et pré-droit, utilisée, pour ainsi dire, comme force motrice pour développer les observations originales et très connues sur l'association entre, je cite Mythe et Pensée, naissance de la cité et droit, ou sur les rapports entre les sujets et les droits. Maison politique et maison judiciaire. Le débat judiciaire est quelque chose d'analogue au débat politique où la parole n'est plus, comme beaucoup ont déjà souligné, même aujourd'hui, et on peut lire dans les origines, n'est pas plus la parole sacrée, mais un des mots utilisés pour construire une argumentation. Néanmoins, c'est sur quelques différences entre assemblée politique et débat judiciaire que je voudrais insister. Est-ce que les maisons politiques et les maisons judiciaires sont la même chose? Car si les maisons politiques visent à réaliser une équidistance de tous les citoyens par rapport au pouvoir, dans les maisons judiciaires, c'est plutôt une symétrie entre les parties qui doit être construite. Et l'espace d'utilisation de la parole argumentée coïncide avec l'espace au dehors duquel il faut faire sortir, presque pousser son adversaire en utilisant les outils consentis par la police. Dès que les différends entre particuliers sont perçus comme affaires de tous, la communauté établit des règles, des espaces, des temps pour canaliser une partie au moins de la violence dérivée d'une vengeance privée. L'espace de la lutte judiciaire, créé par l'héros et par les silences des juges, ainsi que par les espaces physiques de la gonne, doit être occupé par ceux qui engagent le duel et par ceux qui soutiennent accusateurs et accusés dans les temps établis et selon des principes de solidarité que nous voyons fonctionner dans les formations sociales qui existent dans la police et qui détermine, selon les mots de Riccardo Di Donato, contraddizioni, tensioni, équilibri provisori. C'est donc en ces sens spécifiques que je voudrais considérer le modèle de transition vers les droits qui, selon la formulation usuelle, naît en même temps que la police. Je ne veux pas évidemment nier qu'il y a eu un passage qui a été au contraire décisif, mais s'il est possible, je voudrais essayer de nuancer un peu. Le problème peut être considéré sous trois aspects. 1. L'espace du procès dans et au dehors de la police. 2. La lutte et les réseaux des procédures utilisées par les adversaires. 3. Les luttes judiciaires au dehors du procès. 1. L'espace du procès, est un espace neutre qui n'est pas très différent de la gamme préparée. Les verbes utilisés dans le plaidoyer sont souvent para, kataske wazo et kathistemi. Je disais la gamme préparée pour les compétitions de l'épos. Il s'agit d'un espace séparé du reste où les gens s'installent, où un public est assis et observe les combats. Un espace au milieu duquel on peut s'affronter pour une lutte où les compagnons peuvent porter leur aide. Aux différences que nous connaissons, je voudrais ajouter le fait que dans le procès judiciaire, il n'y a pas de belles morts à conquérir. Il s'agit tout simplement de gagner ou de perdre, et dans ce dernier cas, d'être souvent exclu avec l'honte entraînée par cette exclusion des espaces de la police et des espaces du politique, ou bien, dans le cas d'homicide, d'être l'objet d'une vengeance privée. Si mon adversaire gagne, affirme le plaideur de contre Timocat, dans l'accusation qu'il a construite, la formulation c'est « kataske wasas graphen eis agona kathestesen », je n'aurai pas la possibilité de vivre ni même de mourir. Pendant les procès, les adversaires visent à l'anéantissement total. Les fouilles archéologiques et les sources littéraires montrent une pluralité des lieux de la dimension judiciaire, qui ont rapport avec les lieux du politique, mais qui ne coïncident pas avec eux. Nous savons que les maisons du politique est identifiée avec l'agora, les foyers communs du Prytané. Par contre, si l'on peut croire aux reconstructions d'Alan Buggerhold, reprises aussi par Roland Etienne, les lieux de l'administration judiciaire se caractérisent par leur pluralité, leur éparpillement et par le fait d'être en rapport avec les marges de l'agora ou même par le fait d'être extérieur à l'agora, par exemple pour les procès qui se tenaient de temps en temps dans l'Odéon. Espace et temps de l'agon judiciaire. Le débat est, comme l'on répète très fréquemment, une lutte, agon, entre deux adversaires. Qu'en est-il de ce principe quand on lit les orateurs? Il y a les d'observer le fonctionnement de ce symbolisme, procès comme lutte entre deux, dans quelques aspects de l'organisation physique, même pratique, de la vie processuelle. La distribution même des espaces et des temps dans l'agone semble renvoyer à cette opposition entre deux, à cette symétrie nécessaire, paraît-il, pour la lutte. Le procès, en tant que tel, à son propre espace, bien délimité, les juges sont installés dans des sièges, bathra, c'est le nom, les espaces sont marqués par des enceintes, des drufactoi, l'espace physique était coupé à l'intérieur de la cité, sauf les cas très significatifs en tant qu'exception de tueurs bannis d'Athènes dans le tribunal du Phréato, l'espace temporel était, pour ainsi dire, coupé dans les calendriers religieux. Et souvent, les orateurs ont la possibilité d'argumenter sur ce point. On dit, bon, ils ont déposé l'accusation juste au dernier moment avant que les calendriers bloquaient la possibilité de commencer un nouveau procès. C'est un espace coupé du calendrier religieux et consacré par les prières et la voix de l'héros et par un rite pratiqué en utilisant un animal sacrificiel. Comme on peut voir du texte numéro 1 de Échine, on a un catharsion qui est amené avant que le héros prononce ses prières. Le nombre de tribunes sur lesquelles les orateurs soutenaient leur position est l'objet d'un débat parmi les savants. 1, 2 ou même 3, ben matin. Ce nombre nous intéresse ici non pas pour reconstruire une journée judiciaire dans l'abstrait, mais plutôt pour souligner cet aspect symbolique de lutte entre deux adversaires qui soutiennent même physiquement leur position. Au dossier déjà constitué par ceux qui ont étudié la question, je voudrais ajouter un texte qui peut contribuer, à mon avis, à la discussion. Il s'agit d'un passage du théâtre, ce n'est pas une oration, d'un passage de l'Iphigénie chez les taures, l'Iphigénie taurique, dans lequel on peut observer une allusion poétique à une situation qui, à la fin du 5e siècle, la tragédie est datée 414-413, devait être bien connue par les politaï assis dans les théâtres de Dionysos. C'est le texte numéro 2. Je fais référence à ce texte. Oreste est en train de parler de son procès chez l'Aréopage et décrit la scène de l'Agone en utilisant des expressions techniques. À 961, nous voyons « Es dicen esten », « J'ai commencé mon procès ». À ce moment-là, il mentionne deux bathra opposés l'un à l'autre. « Tatheron labon bathron ». Le vers 962 est généralement traduit comme si les adversaires, Oreste et les Erinus, étaient assis sur des sièges pendant le déroulement du procès. Étant donné que Bathron est, comme nous avons dit, le terme utilisé par le lexicographe pour indiquer le siège des juges. Pourtant, il faut considérer que l'évidence archéologique nous dise que les juges sont justement assis au dehors de l'espace partagé par leurs contendants. Bathron est quelque chose sur lequel on peut bainein, c'est marche, son signifié ordinaire. Et dans ce passage de Ripide, il indique, à mon avis, justement l'un de deux bémata saisis par les adversaires, on a la bonne, l'auriste, pour s'opposer l'un à l'autre. Et l'adjectif hétéron est là pour l'indiquer. La situation décrite ne semble pas distante de ce qu'on peut observer dans le texte numéro 3, dans le discours contre Olympiodore de Démosthène, où l'un des deux adversaires était assis, et Cathémen, en silence, siopait sur l'un des deux bémata, epi tu hétéru bématos, pendant que l'autre parlait à son gré. Quand l'un des adversaires attaque, l'autre écoute et attend. D'ailleurs, même l'utilisation des temps par les plaideurs peut offrir des suggestions à retenir. Chaque partie, comme l'on sait, a son temps. Et même en face des juges qui légitiment la lutte, les temps de la discussion appartiennent entièrement aux contendants, qui peuvent l'utiliser à leur gré. Il peut y avoir aussi des véritables provocations. On peut même arriver à offrir son propre temps à qui veuille parler contre ce qu'on vient de dire. L'on peut demander de vider la clepsydre si l'on a terminé son discours. L'on peut, finalement, utiliser les temps des témoins pour enseigner les juges en gagnant de cette façon du temps pour accuser et se défendre. Car quand un témoin parle, le flux de l'eau est arrêté, tandis que quand un synégoros, un assistant souvent mal traduit avocat, quand il parle, on n'arrête pas la clepsydre, le flux de l'eau, et le temps est partagé avec la partie qui est aidée. Quelle est donc la différence entre les deux cas? En effet, les deux cas correspondent, à mon avis, à deux différentes fonctions, et pour ainsi dire, à deux différentes relations avec les passés et avec la fonction des juges. En général, on peut affirmer que si la marturie, le témoignage, est à l'époque classique en train de développer avec beaucoup de tâtonnements une fonction nouvelle qui donne à la personne des juges et au temps du procès un statut nouveau, l'intervention des synégoroi, des assistants en justice, est autre chose. Elle est, pour ainsi dire, plongée dans le passé de l'assistance solidaire aux contendants. Les synégoroi ne bloquent pas la lutte, mais ils y participent et par conséquent, ils doivent partager les temps assignés à la partie avec laquelle ils luttent. Et le verbe couramment utilisé, est syn agonizomai, c'est-à-dire je combats avec. On suppose donc que les synégoroi portent leur soutien aux parties et dans l'éventualité où l'aide n'arrive pas, il est normal de parler de trahison. Une trahison qui est d'autant plus grave parce qu'elle arrive souvent de la part des membres d'une fratrie, d'une association, d'un groupe religieux. Les traîtres ne peut pas rester dans les réseaux d'assistance prévus. Quelque chose d'analogue arrive dans le mythe aux héros qui s'opposent, par exemple à leur père, dans des situations quasi-judiciaires et qui partagent leur destin et l'image légendaire qui est associée avec les héros expulsés par un homicide, même involontaire. À cause d'un homicide, même involontaire. Le cas de Philée est dans ce sens exemplaire. Fils de Jas, il n'accorde pas l'assistance en justice attendue par son père dans son conflit judiciaire, entre guillemets, avec Héraclès, et il est, à cause de cela, expulsé. Philée avait soutenu en justice que le père était en train de violer un principe élémentaire de réciprocité parce qu'il ne voulait pas respecter les pactes stipulés avec Héraclès. C'est le texte numéro 4A et B. Et on a Exebalen dan Posanias, il poussait au dehors, et Kelewe Badizein ex Elidos dans Apollodore. Tandis que dans Homer, il y a une version un peu différente des faits. Dans les tribunaux d'Athènes, il arrive aussi qu'un plaideur déclare qu'il rompt ses liens avec une association, et le nom c'est Philia, justement parce qu'il n'a pas reçu l'aide qu'il s'attendait. Même si cette aide, selon notre catégorie, est quelque chose qui va contre la loi. Par exemple, pour les faux témoignages, il arrive même que des réseaux de faux témoignages s'organisent autour d'associations qui, par leur nom, tribaloi, autolekuthoi, itiufaloi, et leur pratique des rites nocturnes, des vols d'offrandes consacrées à Hécate, se posent en alternative aristocratique à la police. C'est le cas de la contre-conon de Demosthène. Les luttes, la lutte du procès. Dans le procès, il n'y a pas un droit préexistant à affirmer, à conquérir, à partager, comme le kratos de la politique, mais plutôt une victoire à construire. Les tentatives infructueuses pour éviter la lutte, dont les plaideurs parlent souvent en ouvrant leur discours, peuvent avoir été de différentes espèces. L'accord extrajudiciaire, la conciliation, même la corruption. Mais dès que la décision destinée en justice a été prise, le caractère bilatéral de l'agone doit être constitué. Les affrontements ritualisés entre cités, dont Vernon parle dans l'introduction au problème de la guerre et dans les travaux sur le rôle d'Artémis avant la bataille, ne sont pas le seul cas de lutte ritualisée ayant rapport avec la polis. Car, si l'on peut reconnaître des luttes ritualisées dans les fêtes religieuses, il faut considérer aussi la ritualisation de la lutte dans les procès. Dans les tribunaux, c'est une vengeance selon la loi, une timoria cata tus nomus, que le parti cherche à obtenir. Et, en face des juges, les adversaires veulent accomplir, concrétiser, bâtir leur lutte, engagés par une véritable provocation, c'est proclésis, une provocation, prononcée contre l'accusé, si possible, au milieu des espaces publics dans l'agora, et terminant avec l'occupation de l'espace agonal par les gagneurs et la sortie ec tu agonos, c'est la formule qu'on trouve, de l'autre. Ou, dans certains cas, avec l'expulsion de l'autre, dans le cas de Latimia, au dehors des espaces civiques, c'est-à-dire l'exclusion de l'horizontalité des rapports qui lient les citoyens entre eux. Les orateurs plaident souvent en soulignant les défauts des courages de l'adversaire qui s'enfuit dans une sommation, par exemple dans Isée 1, ou plus simplement n'a pas le courage d'affronter la lutte du procès. Je fais référence maintenant au texte numéro 5. Un passage du discours sur son retour d'Andocite est très instructif sur ce sujet. L'orateur critique ses adversaires parce qu'ils n'ont pas le courage, ou tolmosi, d'entrer dans la lutte, eisto meson katastesantes, et de se défendre, diis curizestai. La lutte entre les plaideurs est d'ailleurs souvent désignée par les verbes diiscurizestai ou par la forme simple iscurizestai. Il s'agit d'un verbe attesté à partir du 5e siècle dont la racine est un rapport évident et étroit avec la force, iscus. Ce verbe est utilisé surtout par les orateurs justement pour indiquer la lutte du procès, l'effet d'utiliser la force pour prévaloir sur l'autre. On peut même kratein avec les mots. Le droit au dehors du procès. C'est le point 3. Je voudrais citer pour conclure deux cas qui nous projettent, pour ainsi dire, au dehors des tribunaux. Le premier est un cas assez connu où l'administration de la vengeance selon la loi n'arrive même pas à l'intérieur du tribunal parce que les conditions que la police a établies pour qu'une lutte organisée soit légitime ne le permettent pas. C'est le discours contre Evergos et Mnesibulos, le texte numéro 6, c'est 47 dans le corpus de Démosthène. Dans ce discours, il y a la femme et les enfants du plaideur qui ont assisté dans leur maison à un homicide. C'est l'homicide d'une esclave récemment affranchie qui avait pourtant fait partie de l'oikos du plaideur pour beaucoup d'années. L'accusateur ne peut pas donc dénoncer les tués parce que le témoignage de sa femme et des enfants, dépourvus des capacités juridiques, n'est pas valable. Et l'esclave ne fait pas partie de l'oikos de l'ancien maître. On voit fonctionner ici un système de symboles entre guillemets judiciaires qui ne font pas partie de ce que nous appelons de façon approximative droit athénienne. C'est un épisode assez connu. Le plaideur va chez les interprètes du droit sacré, les exégétaï, qui suggère l'exécution d'un rite tout à fait alternatif au droit. Le formalisme de ce rite est assez transparent. C'est le texte numéro 6, j'ai souligné les expressions plus importantes. Il faut planter une lance sur le tombeau de l'esclave, lancer une malédiction et se venger de façon générale de quelques autres façons. Alle de eipe bulei timoru. C'est-à-dire, exerce ta vengeance de quelque autre façon, mais on ne peut pas te légitimer à une vengeance selon la loi. Selon les historiens du IVe siècle, Istros et Lanikos, ce formalisme était le fondement de l'aropage et de son institution. C'était Recté, dans la légende, les premiers qui avaient planté, avant le procès à l'aropage, une lance sur le tombeau de sa fille Procris, tué par Képhalos. L'attitude rationaliste des datitographes ne nous empêche pas, d'ailleurs, de reconnaître une gestualité efficace, utilisée dans la police, mais au dehors des tribunaux. Le deuxième exemple concerne l'exécution du serment. Une pratique assez répandue dans les tribunaux d'Athènes, tout différemment de la torture. Les orateurs jurent au nom de leur propre maison, de leur famille, en suscitant l'indignation de l'adversaire de temps en temps et en invoquant les dieux. Les serments, dont la nature décisoire et ordalique a été soulignée depuis longtemps, est une des rares occasions pour les dieux d'entrer dans l'agon judiciaire. En effet, il n'y a pas beaucoup de divinités nommées dans les tribunaux. Pas de sacrifice pour Artémis avant la lutte, pas de dique majuscule au nom de laquelle jurer, pas d'estia, mais, au contraire, pas mal de théoi en général qui peuvent aider à sortir, sauf ectu agonos, pas mal d'Héraclès et de Zeus pour les exclamations de l'Attique, ne ton dia, ma ton dia, et pour la formule du serment où le Père des dieux est associé à Apollon et Déméter. Si le serment fait donc partie de la vie ordinaire du procès, quelquefois on a pourtant du mal à comprendre comment les rites qui l'accompagnaient se déroulaient concrètement, et plus en particulier, on a du mal à comprendre s'il y avait contiguïté entre la procédure du serment et les espaces du procès. il n'est pas simple, par exemple, de traduire dans le texte numéro 7, à la ligne 3, le Labentasta Hiera du sermon évoqué au paragraphe 20 du discours contre Léocrate de Lycourgue. Ici, on a une procédure nouvelle et récente, très récente, la clétéosis, c'est-à-dire la procédure qui, de quelque façon, obligeait quelqu'un à témoigner ou à s'excuser s'il ne témoignait pas. Ici, on a une procédure nouvelle qui est associée à un rite dans lequel le formalisme doit être respecté, même en 330, ça c'est la date du discours contre Léocrate, 8 ans après Chéronée, dans l'âge de la parole argumentative et non plus magique. Il faut qu'il prenne les entrailles ou bien qu'il touche les autels, certaines traductions, et jure selon la loi. Est-ce que les sermons sur les entrailles des animaux étaient prêtés dans le tribunal? De quelle façon? Et avec quelles conséquences pour le procès? Il y a un passage de Démosthène qui ferait, par exemple, penser que le rite du serment soit exécuté au dehors du tribunal, parce que l'orateur dit que les preuves ont été changées par l'adversaire pendant qu'il était en train de faire prêter les serments aux esclaves. On a ainsi l'impression d'une sorte de prolongement du passé. S'il y avait serment de scisoire, il n'y avait pas de procès. Les rites est absorbé par un réseau de procédures qui, toutefois, de temps en temps, les rejette au dehors de ces espaces. Tout compte tenu, les problèmes du rapport entre les rites et les droits paraît, d'un certain point de vue, un problème insoluble si nous les considérons que dans la perspective du passage du rite au droit, du prédroit au droit. Et si nous ne considérons les véritables rites se déroulant avant ou pendant le procès que des formes introductrices d'instance. La direction prise par les droits de la cité est évidemment celle du développement à la limite de l'évolution, mais il faudra du temps, beaucoup de temps, pour l'affirmation définitive d'un droit athénien. Je me demande donc, pour conclure de façon définitive, si l'on puisse dire du procès judiciaire ce que Jean-Pierre Vernon affirmait à propos de la tragédie. En forçant l'expression et les mots originaux, les droits et non pas la tragédie, dans notre cas, serait un domaine où les passés continuent à faire problème. Merci.